6h du soir.
On de la traconte sur Europe 1.
Et bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est la suite d'On de la traconte jusqu'à 19h avec le journal d'Isabelle Millet dans un instant. Bonsoir.
Bonsoir
Isabelle.
Christophe.
Dans 20 minutes, le tourisme est-il devenu une plaie mondiale? Mon invité sera le directeur de ProTourisme, Didier Arinaud. Dans la foulée, trois nouveaux rendez-vous avec lesquels vous allez devoir vous familiariser. D'abord, tous les jours, après 18h30, je vais recevoir un homme ou une femme de conviction. Et aujourd'hui, c'est l'avocat catholique et droitier Henri de Beauregard qui ouvre le bal. J'ai cru comprendre qu'il est agacé par le déboulonnage des statuts sudistes aux États-Unis et donc cette tentation de réécrire l'histoire. Mais il vous l'expliquera lui-même. Ensuite, un journal du monde qui vous sera présenté par Sophie Larmoyer. Ce seront des histoires d'ailleurs. Et aujourd'hui, par exemple, l'Inde, qui s'est lancée dans la collecte folle des données biométriques de tous ses habitants et qui décide d'y renoncer au nom du respect de la vie privée, ce qui est une notion qui était assez inconnue en Inde. Et puis la petite fourberie de cette émission, Benjamin Muller a passé sa journée à écouter la concurrence, le pauvre, les autres radios, les chaînes de télévision, et il va vous faire entendre tout ce que vous avez peut-être sans doute manqué. Mais avant tout, voici le journal avec Isabelle Millet. Et au sommaire ce soir, Isabelle, des images de dévastation aux États-Unis après le Texas. Donald Trump déclare l'état d'urgence en Louisiane. Les précipitations ont atteint des niveaux exceptionnels et le déluge continue à s'abattre sur les zones sinistrées. À Houston, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont devoir être hébergées d'urgence.
Elle était une icône sexy au grand cœur. Elle avait tourné avec les plus grands et formé un couple mythique avec Alain Delon. La comédienne Mireille Darc s'est éteinte la nuit dernière. Elle avait 79 ans. Quand Édouard Philippe compare Jean-Luc Mélenchon à un romantique échevelé, la rentrée du gouvernement, c'était aujourd'hui. La rentrée des classes, c'est dans une semaine et ça coince déjà avec les nouvelles réformes. C'est un grand classique, me direz-vous. Sauf que cette fois, certaines communes ont carrément décidé de reporter le début des cours. L'Allemagne, sous le choc, découvre aujourd'hui l'histoire de cet infirmier soupçonné d'avoir tué au moins 90 patients. Il leur injectait des surdoses de médicaments. Et puis le PSG casse une nouvelle fois sa tirelire. Après Neymar, Mbappé, 180 millions. Le prodige est à Clairefontaine avec les Bleus. Il ne confirme pas, mais il sourit quand on lui pose la question. Notez que la Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,48%. Le CAC 40 est à 5079 points.
Et direction donc d'abord les États-Unis où la tempête tropicale Harvey continue de déverser ses pluies diluviennes sur le Texas.
Et plus particulièrement sur Houston, quatrième ville du pays. Les services d'urgence sont totalement débordés. Ce sont aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui ont besoin d'aide, des familles qui attendent les secours sur le toit de leur maison. Le président américain est attendu sur place demain. Xavier Yvon, on vous retrouve en direct. Vous êtes le correspondant d'Europe 1. Vous nous racontiez ce matin, Xavier, que vous aviez eu un mal fou à rejoindre Houston en voiture. Alors ça y est, vous êtes sur place. Quelle est la situation ce soir, Xavier? Où êtes-vous? Que voyez-vous?
Pour vous donner une idée de la situation, une image, je suis le long d'une autoroute de l'un des périphes urbains de Houston, qui d'habitude à ce moment-là est très embouteillé. Et à l'heure où je vous parle, ce que j'ai devant les yeux, c'est une énorme rivière. Il y a un pont juste à côté et il y a un panneau qui indique la hauteur maximale des véhicules qui peuvent passer en dessous. Il y a marqué 5 mètres. Et l'eau arrive juste en dessous du panneau. Ça veut dire qu'il y a 5 mètres de profondeur sur cette autoroute. Je suis à bord du pick-up de Brad et de Mike qui sont venus avec leur bateau pour essayer de sauver leurs proches qui habitent dans des quartiers juste à côté et qui sont inondés.
Je vais essayer de sauver ma belle-mère. Sa maison est totalement inondée. Elle habite à 1 km d'ici. Je viens de lui parler, elle va bien. Mais je ne peux pas y accéder par camion car l'eau est trop profonde. Donc il va falloir que je trouve un kayak. On va essayer de la sortir de là avec un kayak.
Le temps que je vous parle, en fait, il a réussi à retrouver sa belle-mère. Elle vient d'arriver, elle s'appelle Ama, elle dit un tout petit mot de français.
Bonjour, Jesus, ça va?
Voilà, elle vient nous dire qu'elle est sauvée. Brad et Mike sont repartis, eux, chercher d'autres proches encore coincés dans le quartier.
Xavier Yvon, les autorités disent que 30 000 personnes vont dormir ce soir dans des refuges, vous confirmez?
Ah oui, ça ne m'étonne pas parce que la grande activité aujourd'hui à Houston des gens que j'ai croisés, c'est où je vais dormir, se débrouiller pour trouver un endroit pour dormir. Alors, il y a beaucoup de refuges qui ont été ouverts un peu partout dans la ville. J'essaye moi-même d'aller en voir un, mais le problème, vous comprenez, c'est qu'il faut trouver la bonne route pour accéder au bon endroit. Tout est fermé, il y a des inondations partout. Tout à l'heure, je suis tombé sur un très vieux monsieur de 91 ans, très fatigué, qui arrivait à la réception d'un hôtel, qui cherchait une chambre pour ce soir. Évidemment, l'hôtel est plein. Et cet homme de 91 ans avec sa femme ne sait pas où il va dormir ce soir.
Et alors justement, quelles sont les prévisions, Xavier ? Est-ce qu'il y a une chance pour que ce déluge cesse dans les prochaines heures ?
Alors c'est compliqué à dire. Ce matin, à la télévision, les présentateurs météo avaient l'air plutôt positifs. Ils disaient qu'il pleuvrait un peu moins aujourd'hui sur Houston. Je peux vous dire qu'il pleut quand même encore beaucoup. C'est vrai que c'est un peu moins fort que quand j'ai fait la route hier soir, où vraiment c'était des rideaux très violents de pluie, mais il continue à pleuvoir. Et pour l'instant, on ne voit pas la pluie s'arrêter. Et normalement, ça doit durer encore au moins plusieurs jours. On reçoit régulièrement, vous savez, sur les téléphones portables, des alertes automatiques aux crues éclairs, aux inondations éclairs. Eh bien, j'en ai reçu encore une il y a quelques minutes.
Eh bien, bon courage à vous, Xavier Yvon, et à tous les habitants d'Houston. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 au Texas. Donald Trump se rend sur place demain. Et cet après-midi, il a également décrété l'état d'urgence également pour la Louisiane, car la tempête tropicale se déplace. Et c'est une mesure qui permet de mobiliser davantage de moyens.
Je pourrais être pendu pour ce que je vais dire maintenant au sujet de Mireille Darc, mais elle était incroyablement sexy. Heureusement, pas seulement, mais la carrière de Mireille Darc ne peut pas se résumer à ce décolleté vertigineux dans le dos qui découvrait le haut de ses fesses, cette incroyable robe qu'elle portait dans le grand blond avec une chaussure noire.
Et Mireille Darc avait 79 ans. Elle s'est éteinte la nuit dernière à Paris. Une femme de talent, de valeur, de combat. Elle avait tourné avec les plus grands, Funès, Gabin, Pierre Richard, et formé un couple mythique au cinéma, comme dans la vie d'ailleurs, avec Alain Delon, dont elle fut la compagne pendant 15 ans et qui était d'ailleurs à son chevet la nuit dernière. Mireille Darc, icône du cinéma français dans les années 60-70, elle a joué dans de nombreux films de Georges Lautner, notamment dans Les Saintes Glaces, et dire qu'elle est devenue comédienne presque par hasard.
J'ai été me promener un jour, j'ai découvert le conservatoire d'art dramatique, et là j'avais 15 ans, 14-15 ans, je suis rentrée, j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais apprendre. La danse, j'avais un problème puisque j'étais cardiaque, le chant, je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement une voix qui pouvait aller, et on m'a dit il y a aussi l'art dramatique. J'ai dit c'est quoi l'art dramatique ? On m'a dit vous jouez des pièces. J'ai dit alors j'y vais. Et je me suis inscrite parce que je me suis dit, là, je vais peut-être avoir une possibilité de sortie.
Mireille Darc, c'était en 2008 sur Europe 1. Vous savez qu'elle était atteinte depuis l'enfance d'un souffle au cœur. Elle avait suivi en 1980 une opération à cœur ouvert par le professeur Cabrol. Et c'est peut-être d'ailleurs cette souffrance, ce parcours qui l'avait conduite à se lancer dans la réalisation de documentaires, notamment sur les greffes d'organes, mais aussi sur le cancer, la prostitution et même les femmes SDF. Comme le racontait à la mi-journée sur Europe 1 son ami Serge Moati, qui l'avait aussi dirigé dans un téléfilm en 1996.
C'est une héroïne, quoi, parce qu'elle était d'un courage, mais incroyable. Quand elle a fait ses documentaires, moi je fais beaucoup de documentaires, vous savez, mm-hmm. Je lui racontais comment on se retrouvait seul parfois dans des situations incroyables. Enfin, elle était très attentive à ça, et je pense qu'elle est allée à la recherche d'elle-même aussi, à travers ses femmes. Et elle était très heureuse de se confronter à cette réalité pas protégée qu'est la réalité du documentaire. C'est-à-dire on est très seul, on est deux, on est trois à tout casser. Elle filmait la nuit dans des endroits invraisemblables, etc. Elle y allait toute seule, donc quasiment, quoi. Mm-hmm. Et elle était d'un courage et d'une attention aux autres formidable. On parlait beaucoup de ça.
Serge Moati qui était invité d'Europe Midi avec Maxime Switek. Brigitte Bardot confie pleurer sa petite sœur de cinéma. Le chanteur Michel Sardou évoque une amie, une sœur, une complice, un petit oiseau, dit-il, mais un oiseau de fer. Anthony Delon parle de celle qu'il a également élevée. Elle était un catalyseur d'amour, écrit-il, un être spirituel, une femme remarquable de courage, de gentillesse et d'optimisme.
Et notez que Frédéric Taddeï va rendre hommage à Mireille Darc ce soir dans Europe 1 Social Club entre 20h30 et 21h, avec notamment la rediffusion en intégralité d'une interview de la comédienne. Il est 18h09, on marque une pause. Et après la pause, Isabelle ?
Alors, après la pause, on vous parlera d'éducation, mais je voulais vous dire juste un mot sur cette disparition inquiétante de Maëlys, 9 ans, qui assistait ce week-end à un mariage avec sa maman dans l'Isère, à Pont-de-Beauvoisin. Elle a disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Depuis, aucune nouvelle. Une enquête pour enlèvement a été ouverte ce matin. Ni la piste accidentelle, ni la piste criminelle ne sont écartées. Puis vous savez, Christophe, il n'y a pas qu'à Europe 1 qu'on reprend le boulot aujourd'hui. Hein.
Oui, Emmanuel Macron et ses ministres sont de retour. Et avec eux, les sujets qui fâche.
Voilà, séminaire gouvernemental. Aujourd'hui, on tente d'oublier les couacs de l'été, la baisse de popularité et on s'attelle aux réformes. Il y en a un paquet, toutes plus sensibles les unes que les autres. Les derniers arbitrages de la loi travail doivent être rendus d'ici jeudi. Les syndicats sont prêts à passer à l'action. Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
Vous y étiez. Alors d'abord, quelle était l'ambiance ce matin à ce séminaire de rentrée, Aurélie ?
Alors, ambiance très studieuse, car le gouvernement, vous le savez, il a du pain sur la planche en cette rentrée. Objectif affiché par le Premier ministre, réparer le pays, rien que ça, avec une liste de chantiers à lancer. Après la réforme du Code du travail qui sera dévoilée jeudi que vous évoquiez, le gouvernement s'attellera, attention, la liste est longue, à la réforme de la formation professionnelle, puis de l'assurance chômage avant les retraites en 2018. Et dès septembre, le gouvernement proposera un plan étudiant et aussi une refonte de la politique du logement, sans oublier le premier budget de l'ère Macron attendu pour le 27 septembre. Le message est clair, vous avez tous compris, on est au travail, on est déterminé. D'ailleurs, le chef de l'État a demandé à ses ministres de ne pas céder aux Cassandres, tous ceux qui disent que cette rentrée va mal se passer.
Alors, je vous ai entendu dire qu'Édouard Philippe voulait réparer le pays. Il a également, Aurélie, il a également ciblé Jean-Luc Mélenchon, qui s'en était donné à cœur joie, il faut le dire, ces derniers jours.
Ah oui, on peut dire que c'est la résolution de la rentrée. Pas question de se laisser attaquer sans rien dire. Le gouvernement descend dans l'arène politique. Jean-Luc Mélenchon, en effet, qualifie la réforme du droit du travail de coup d'État social. Le Premier ministre riposte.
Je peux comprendre le romantisme échevelé. Je peux comprendre la fascination vénézuélienne. Mais je voudrais quand même dire clairement aux Français que ce que nous préparons, c'est une transformation discutée, pensée et nécessaire pour le développement de l'économie française, pour la sécurisation à la fois des entreprises et des salariés et pour le dialogue social. Il n'y a rien d'antidémocratique.
Le gouvernement veut être à l'offensive, une nécessité alors que la cote de popularité du président de la République est en chute libre.
Et on suivra ça avec vous. Merci Aurélie Herbemont.
La suite du journal dans un instant avec les inévitables couacs de la rentrée scolaire.
Christophe Ondelat sur Europe 1. Ondelat raconte sur Europe 1.
Il est 18h14, c'était la rentrée scolaire aujourd'hui sur Europe 1. On est à une semaine de la rentrée scolaire. Et l'inquiétude des enseignants et des directeurs d'école commence à émerger avec les nouveautés qui ont été annoncées par le nouveau ministre qui apparaissent assez compliquées à mettre en place. Donc on va être assez pédagogue dans la séquence QFIS. Certains établissements ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève. Pourquoi ?
Alors, ce qui coince en particulier, c'est cette décision d'instaurer des classes de CP, vous savez, à 12 élèves dans les zones d'éducation prioritaire. Alors, personne ne remet en cause l'utilité de cette mesure, mais comme souvent, ça bloque sur les moyens. Écoutez, la porte-parole du principal syndicat d'enseignants du primaire, Françoise Popineau, pour elle, l'éducation est une nouvelle fois prise en otage.
Cette réforme, elle est faite avec les moyens du budget précédent. Pour l'instant, nous n'avons pas de moyens. Pour nous, c'est un détournement de fonds. Il a pris le budget précédent sans suivre la feuille de route. Et la feuille de route, elle était faite pour abonder le remplacement, développer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, réabonder les RASED, vous savez, ces enseignants spécialisés qui ont été supprimés sous l'ère Sarkozy. Nous ne sommes pas à l'ère de l'amélioration de l'école puisque nous mettons tous les œufs dans le même panier pour dédoubler les CP.
Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Alors, on entend la colère de cette représentante des enseignants. On a besoin de votre éclairage, Virginie. Qu'est-ce qui coince ? C'est le manque de profs ou c'est le manque de place pour appliquer cette mesure de 12 élèves, on l'a dit, dans les classes défavorisées ?
Alors, c'est clairement le manque de postes, d'après les syndicats, parce qu'ils disent très simplement qu'il n'y a aucun poste prévu pour cette réforme. C'est-à-dire qu'on va piocher à gauche, à droite, donc par exemple dans le vivier des enseignants remplaçants, des enseignants qui, du dispositif plus de maîtres que de classes. Vous savez, ils allaient dans les classes les uns les autres pour aider des collègues qui avaient des petits noyaux difficiles ou des élèves en difficulté. Donc on pioche à droite, à gauche.
Oui, on déshabille Paul pour habiller Jacques, quoi.
Voilà, c'est ce que disent les syndicats. Alors, globalement, il y aura quand même, évidemment, des classes de CP dédoublées dans toutes les REP+, donc les classes d'éducation prioritaire. Simplement, on pioche à droite, à gauche. Alors le ministère ne dit pas vraiment le contraire, assume ce dispositif parce qu'on a dédoublé par exemple le plus de maîtres que de classes, 50% seulement, pour voir, d'après le ministre, si l'un ou l'autre fonctionne mieux. On pourra évaluer comme ça les deux dispositifs, les faire coexister pendant au moins un petit moment.
Alors il y a aussi, Virginie, un autre conflit en cette rentrée. Vous savez que le ministre a annoncé qu'il voulait réduire le nombre de contrats aidés, un tiers de moins. En deux mots, d'abord, c'est quoi un contrat aidé ?
Alors d'abord, il y a les contrats aidés qui sont embauchés par l'éducation nationale, donc par exemple documentaliste, secrétaire de directeur ou directrice d'école, ou bien les gens qui accompagnent les élèves en handicapés dans les classes. Et puis, il y a tous les autres qui sont embauchés, eux, par les communes et qui sont essentiels à la vie des écoles. C'est par exemple la dame de cantine, le chauffeur de car scolaire, c'est tous ces gens qui font vivre l'école au quotidien.
Donc il y a carrément des communes qui ne vont pas faire la rentrée scolaire la semaine prochaine.
Alors c'est ce que disent certaines communes, en l'occurrence Valorpiquet près de Lisieux dans le Calvados. La maire a déjà annoncé que la rentrée ne se ferait pas lundi 4 septembre. Dans le Gard, il y a 4 autres communes qui disent, en l'état actuel des choses, on ne pourra pas faire la rentrée. Et puis il y a d'autres communes, par exemple en Gironde, qui disent, nous, on n'a pas assez de par exemple, dames de cantine, chauffeurs de car. Dans notre région, ce n'est pas possible. On ne va pas faire dans ce cas-là, nous, seulement les activités périscolaires. On va essayer de concentrer les personnels dans l'école, mais le reste, on ne pourra pas faire.
L'éclairage de Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Merci beaucoup Virginie.
Et la chaleur qui règne en cette fin de mois d'août n'arrange pas vraiment non plus les préparatifs de la rentrée.
Absolument. On rejoint tout de suite Stéphane Place en direct. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région bordelaise. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle.
Alors votre région n'est pas concernée directement par la vigilance canicule, mais il fait quand même très très chaud.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus de 30 degrés cet après-midi et le soir, mine de rien, à une semaine de la rentrée scolaire, on vient de l'évoquer, alors qu'il faut essayer de reprendre un rythme plus classique, eh bien, ce n'est pas facile de s'endormir pour les enfants. Par exemple, Zieb, élève de CM1, croisé tout à l'heure à Bordeaux, pour trouver le sommeil, eh bien, ce n'est pas facile du tout.
Moi, ça me perturbe. J'ai la transpiration.
Et quand on a la transpiration, Isabelle, eh bien, on ne s'endort pas aisément et les parents savent quelque chose.
Ça les fait retarder un petit peu tous les soirs et c'est ça qui fait qu'on ne les couche pas si tôt que ça, en fait, au final, malheureusement. Nous, on vient de rentrer en ville là, depuis 2 jours et c'est vrai que c'est un peu plus oppressant que compter bord Atlantique où il y a un peu plus d'air, où c'est un petit peu plus agréable.
J'ai 3 enfants, ils se réveillent plusieurs fois la nuit à cause de chaleur. Je sors avec eux le matin pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils jouent et tout. Ils ne font pas la sieste par rapport à cette chaleur-là. Je les fatigue et comme ça, le soir, ils dorment.
Alors, les fatigués, c'est une stratégie parentale assez répandue, je l'ai beaucoup entendu aujourd'hui. Après, il y a le ventilateur, m'a-t-on dit aussi, dans la chambre des enfants, où l'histoire du soir, 10 fois plus longue que d'habitude, pas les vôtres, hein, d'histoire, Christophe, pas celles qui font peur. Et puis, il y a la géographie, vous allez comprendre en écoutant Guillaume, papa breton, transpirant dans les rues bordelaises, avec ses enfants qui, eux aussi, s'endorment un peu tard en ce moment.
On est en vacances en ce moment. Après, quand on va revenir à la maison en Bretagne, c'est vrai que progressivement, on va reprendre des horaires plus standards pour que lundi matin, ils se retrouvent la pleine forme. En Bretagne, il fait quelques degrés de moins. Donc, ça va être l'avantage majeur de la Bretagne. Au retour, là, dans quelques jours, on va retrouver des températures plus confortables pour encourager les enfants à aller se coucher.
Dites-nous rapidement, Stéphane Place, à partir de quand vont-ils pouvoir dormir les petits Bordelais?
Alors, les petits Bordelais, a priori, demain, il va faire encore très chaud. Ça devrait s'améliorer. Oui, allez, à partir de jeudi, jeudi, on dormira bien.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en direct de Bordeaux. 8 départements sont encore en alerte canicule.
Merci Isabelle Millet.